الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Détournement de la prière. Invocation d'Attar, ô Allah Azzawajal. Quiconque lit ou écoute le livret de 18 pages, Détournement de la prière, accorde-lui la félicité d'accomplir la prière avec une concentration totale et confère-lui, ainsi qu'à ses parents, un pardon sans avoir à rendre de compte. Amin. Bijahi khatamin nabijin sallallahu alayhi wa sallam. L'excellence de la salat. S'adressant à celui qui récite la louange et la salat. Après la prière, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: invoquée, elle sera exaucée. Cherchée, elle sera accordée. Sallu alal habib sallallahu alayhi wa sallam. Règle relative à la prière après avoir revêtu un châle à motif. Il est rapporté dans Sahih al-Bukhari que la mère des croyants, Sayyida Aisha Siddiqah radiyallahu anha, a rapporté que le dernier prophète, sallallahu alayhi wa sallam, accomplissait la prière dans un khromissah avec des impressions dessus. Il, sallallahu alayhi wa sallam, jeta un coup d'œil à ces motifs. Après qu'il, sallallahu alayhi wa sallam, eut fini de prier, il sallallahu alayhi wa sallam dit: remets ce châle à moi à Abu Jahm et apporte l'ambijaniya d'Abu Jahm car ce châle vient de détourner mon attention de la prière. On rapporte également que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai commencé à voir ces motifs pendant la prière, je crains donc qu'ils ne me détournent. Les vêtements ont un effet sur le cœur. Commentant le hadith ci-dessus, Hakim ul Ummah, le mufti Ahmad Yar Khan rahmatullahi alayhi, a déclaré que chromissa en arabe signifie un châle avec des motifs. Il s'agissait d'un châle en laine de couleur noire qu'Abu Jahm radiyallahu anhu avait offert au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en guise de cadeau. Ayant porté ce châle, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplit la prière. Anbijania est une attribution du nom d'une ville syrienne où l'on fabrique des vêtements unis. Tout comme à notre époque, les mousselines de Bagalpur, Boria et Dhaka et les tissus de coton de Lailpur sont réputés. Le simple fait de rendre le châle aurait déçu Abu Jahm radiallahu anhu, donc le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda un autre châle en échange pour qu'Abu Jahm radiallahu anhu soit heureux. Les soufis ont déclaré que les vêtements ont un effet sur le cœur, en particulier sur un cœur pur et lumineux. Par exemple, s'il y a une petite tache noire sur un morceau de tissu blanc, la tache est visible de loin. Cela montre également que le mihrab d'une mosquée doit être simple. C'est mieux ainsi car l'attention du dévot ne sera pas détournée. Selon certains soufis, il est préférable de faire la prière sur un tapis simple plutôt que sur un tapis orné de dessins et d'imprimés. Leur point de vue est basé sur le même hadith mentionné ci-dessus. N'oubliez pas, tout cela a en fait pour but d'enseigner l'umma. Le noble cœur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam fut traversé par différents états. Parfois, il sallallahu alayhi wa sallam craignait une baisse d'humilité et de concentration due au dessin sur un vêtement, et d'autres fois, il sallallahu alayhi wa sallam accomplissait la prière sur un champ de bataille à l'ombre des épées, mais sa concentration n'en fut pas affectée. Parfois, son humanité se manifestait et à d'autres moments, la luminescence de son attribut de lumière. Il est permis de faire la prière en portant des vêtements ornés de motifs. Ô dévot du bien-aimé, prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne doit avoir l'impression qu'il est interdit de faire la prière avec des vêtements colorés ou ornés de motifs. La règle en la matière est que, qu'il s'agisse d'un motif sur les vêtements, d'un objet lourd dans la poche, ou de toute autre chose créant un obstacle à la concentration pendant la prière, s'abstenir de ces choses est mieux et mène à la récompense. Nouvelle sandale bénie. Une fois, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam porta une nouvelle paire de sandales bénies et les trouva bonnes. Alors, il sallallahu alayhi wa sallam se prosterna en signe de gratitude et dit: j'ai fait preuve d'humilité envers mon Seigneur afin qu'il ne fasse pas preuve de colère à mon égard. Puis, il sallallahu alayhi wa sallam sortit et accorda ses sandales bénies au premier mendiant qu'il sallallahu alayhi wa sallam rencontra. Ensuite, il sallallahu alayhi wa sallam dit au chef des croyants, Sayyiduna Ali Murtada radiallahu anhu, Achète-moi des sandales en cuir vieux et souple. Il sallallahu alayhi wa alihi wa sallam les porta alors, anneau d'or, avant que l'or ne soit déclaré interdit aux hommes. Le dernier prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam portait un anneau d'or à son doigt béni. Il sallallahu alayhi wa alihi wa sallam était assis sur le minbar béni lorsqu'il sallallahu alayhi wa alihi wa sallam retira l'anneau et dit: cela m'a préoccupé. Un de mes regards est resté sur lui et l'autre sur vous, c'est-à-dire les personnes présentes. L'or est interdit aux hommes. Ô dévot du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. À l'origine, le port de l'or était autorisé pour les hommes, mais il fut déclaré interdit par la suite. Sayyiduna Ali radiallahu anhu déclara: prenant de la soie dans sa main droite et de l'or dans la gauche, le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a déclaré: ces deux choses sont interdites aux hommes de Mahoma. Anneau d'or jeté. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam vit un jour une personne qui avait un anneau d'or au doigt. Enlevant l'anneau de son doigt, il sallallahu alayhi wa alihi wa sallam le jeta et avertit: est-ce que quelqu'un garde une braise dans sa main? Après le départ du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, quelqu'un suggéra à la personne: prends ta bague et utilise-la pour un autre but au lieu de la porter. Il répondit: par Allah azza wa jal, je ne prendrai jamais cela quand le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam l'a jeté. Salou ala al-habib sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Le malheur de l'amour pour un oiseau. Un adorateur adora Allah azza wa jal dans une forêt pendant une longue période. Un jour, il vit un oiseau gazouiller à l'intérieur de son nid dans un arbre. Alors il s'est dit: comme ce sera merveilleux si je trouve un lieu d'adoration près de cet arbre. Je continuerai ainsi à écouter le chant de cet oiseau. C'est ce qu'il fit. Allah Azzawajal révéla au prophète alayhi salam de l'époque en déclarant: dis à l'adorateur un tel, tu t'es attaché à la création. J'ai rétrogradé ton rang de telle sorte que tu ne pourras plus l'atteindre par quelque acte que ce soit. Règle sur la détention d'oiseaux. Ô dévot de la prière, il est permis de garder des oiseaux, etc. Mais il n'est pas convenable de s'en occuper au point que cela devienne un obstacle à la concentration dans les prières et à l'inclination pour d'autres actes d'adoration. Il est nécessaire de les nourrir et de leur fournir de l'eau en abondance, afin de ne pas être pour eux une cause de faim et de soif. Mon maître, l'imam Ahmad Raza Khan, rahmatullahi alayh, a déclaré: il faut offrir de la nourriture et de l'eau aux animaux 70 fois, c'est-à-dire plusieurs fois, par jour. Sinon, les élever et les garder affamés et assoiffés est un péché grave. Il est nécessaire de s'abstenir d'infliger tout type de cruauté aux animaux. Opprimer un animal est un péché plus grave qu'opprimer un musulman. Un musulman peut intenter un procès, etc. Mais un animal opprimé ne peut se plaindre à personne. Rappelez-vous également que l'invocation d'un animal opprimé contre son oppresseur est exaucée. Sallu ala al-habib sallallahu ala Muhammad. Un compagnon béni donna son jardin en charité. Sayyiduna Abu Talha al-Ansari radiyallahu anhu faisait la prière dans son jardin. Soudain, un pigeon de couleur grise vola ici et là, essayant de trouver un moyen de sortir du jardin. Il radiyallahu anhu aima cette scène et fixa son regard sur lui pendant un moment. Alors qu'il radiyallahu anhu tournait son attention vers la prière, il ne se souvenait plus du nombre d'unités qu'il avait accomplies. Il radiyallahu anhu dit: ma richesse, c'est-à-dire mon jardin, m'a jeté dans la tribulation. C'est pourquoi il radiyallahu anhu vint à la cour du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et, après avoir raconté l'incident, il radiyallahu anhu dit humblement: ô prophète d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ce jardin est une aumône. Dépensez-le où vous voulez. Un saint tabi'i donna son jardin en charité. Un saint tabi'i, rahmatullahi alayhi, accomplissait une prière dans son jardin de palmiers dattiers chargés de fruits qui s'inclinaient. Son regard se posa sur eux, il rahmatullahi alayhi les aima et ne se souvint plus de combien d'unités il rahmatullahi alayhi avait accompli. Il le mentionna au chef des croyants, Sayyiduna Othman al-Ghani, radiallahu anhu, et proclama: maintenant, ce jardin est une aumône. Dépensez-le dans le sentier d'Allah Azzawajal. Sayyiduna Othman al-Ghani, radiallahu anhu, le vendit donc pour 50 000. La peur d'ennuyer un ami. Mais, ô chercheur du paradis, avez-vous remarqué, lorsque les jardins d'un compagnon du Saint-Prophète et celui d'un saint tablier devinrent un obstacle pour atteindre la concentration dans la prière, ils les donnèrent en charité dans la voie d'Allah Tout-Puissant. Subhanallah, nos pieux prédécesseurs étaient l'homme profondément attaché à la prière. Contrairement, hélas, à nous, personnes insouciantes que nous sommes. La plupart d'entre nous ont oublié la prière. Par le biais de l'adhan, Musallal Anan, nous sommes invités à venir à la mosquée pour faire la prière, 5 fois par jour. Mais nous n'en prenons pas note. Si le président d'un pays ou un ministre envoie une invitation à quelqu'un, celui-ci en sera ravi. Il s'en vantera auprès des gens en disant « Je suis invité par tel ou tel ministre à telle ou telle date ». Malheureusement, l'invitation d'un fonctionnaire est considérée comme une plume dans le chapeau. Mais l'invitation du muazzin qui nous appelle vers la prière dans la cour divine n'est pas du tout prise en considération. Si un parent ou un ami vous invite à assister à un mariage ou à toute autre cérémonie, vous l'acceptez même à contre-cœur. Parfois, vous craignez qu'il ne se fâche si vous n'acceptez pas son invitation. Mais si vous n'acceptez pas l'invitation du muazzin qui dit « Hayya la salah », c'est-à-dire « Venez vers la prière », Allah Azzawajal sera mécontent. Y avez-vous déjà pensé ? Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad. La prière accomplie avec concentration soulage le chagrin. Il est indiqué aux pages 74-75 du livre de 84 pages intitulé « Le chemin de la connaissance » publié par le Maktabatul Madina de Dawat-e Islami. Un étudiant en études islamiques n'est pas censé s'inquiéter des affaires mondaines, car s'inquiéter des affaires du monde est extrêmement nuisible et ne présente aucun avantage. Se préoccuper du monde entraîne l'obscurité dans le cœur, et réfléchir à l'au-delà apporte la lumière dans ce dernier, et l'effet de cette lumière se manifeste dans la prière. Le fait de s'attrister pour le monde empêche une personne d'accomplir des actes vertueux, tandis que le fait de réfléchir à l'au-delà l'incite à accomplir de bonnes actions. Rappelez-vous également que le fait d'accomplir la prière avec humilité et concentration et de s'occuper à acquérir des connaissances islamiques élimine l'inquiétude et le chagrin. Moyen efficace de bénédiction dans la subsistance. Il est aussi écrit à la page 80 du même livre, Le chemin de la connaissance. Un moyen efficace d'obtenir la bénédiction dans la subsistance est que l'homme fasse la prière avec humilité et concentration en accomplissant l'essentiel de la prière lentement et en accomplissant les actes wajib, les sunan et les étiquettes complètement avec le soin qui s'impose. 10 moyens de vivre une longue vie. Voici les éléments qui permettent d'augmenter la durée de vie d'une personne. 1. Faire de bonnes actions. 2. Ne pas faire souffrir les musulmans. 3. Respecter les aînés. 4. Bonne conduite avec les proches. 5. Réciter les mots suivants 3 fois le matin et le soir, chaque jour.
Mil al-mizani wa muntaha al-ilmi wa mablagha ar-ridha wa zinata al-arshi.
6. S'abstenir de couper inutilement des arbres verdoyants. 7. Effectuer les ablutions soigneusement, tout en faisant attention aux sunan et aux règles d'étiquette. 8. Accomplir la prière avec concentration et humilité. 9. Effectuer le hajj et la umrah avec le même ihram, c'est-à-dire effectuer le hajj qiran. 10. Veiller à votre santé. Tous ces éléments sont autant de raisons de vivre longtemps. Pourquoi un esclave oublie-t-il des unités de prière? Le dernier prophète d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a déclaré « Lorsque l'appel à la prière est prononcé, Satan s'enfuit, tournant le dos et brisant le vent, afin de ne pas entendre l'adhan, l'appel à la prière. Après l'adhan, il revient. » Lorsque l'Iqama est récité, il s'enfuit à nouveau. Après l'Iqama, il revient et commence à chuchoter à l'adorateur en disant « Rappelle-toi telle ou telle chose, rappelle-toi telle ou telle chose » à propos de choses dont il ne s'était pas souvenu, jusqu'à ce que la personne ne se souvienne plus du nombre d'unités qu'elle a accomplies. L'adhan chasse Satan. Commentant le hadith béni ci-dessus, Hakamul Ummah, Mufti Ahmad Yar Khan Naimi Rahmatullahi Aleyh a déclaré que la fuite de Satan a été utilisée ici au sens littéral. L'effet de l'adhan est de chasser Satan. C'est pourquoi on fait l'appel à la prière lorsque la peste se propage, car cette pandémie résulte de l'effet des djinns. En outre, l'adhan est prononcé à l'oreille d'un nouveau-né parce que Satan est présent au moment de sa naissance et que le bébé pleure parce que Satan le frappe. De même, après l'enterrement d'un musulman, l'adhan est prononcé du côté de la tête de la tombe. C'est le moment où la personne décédée doit subir une épreuve et où Satan essaie de la tromper. Grâce à la bénédiction de l'adhan, Satan s'enfuira, le musulman enterré sera réconforté et son cœur s'inclinera vers sa nouvelle demeure. Il se souviendra également des réponses aux questions des Nakirein. Pour obtenir des informations détaillées sur l'adhan, l'appel à la prière dans la tombe, lisez le livret
Idhanul ajri fi adhanil qabri.
inclus dans le cinquième volume de l'édition référencée de Fatawa Razawiya. On se souvient des choses oubliées pendant la prière. Le mufti Ahmad Yar Khan Rahmatullah Alayh a par ailleurs déclaré, par expérience, il est évident que les choses qui viennent à l'esprit d'une personne pendant la prière ne lui viennent pas à l'esprit en dehors de la prière. Cela montre également que dans le but de mettre les êtres humains à l'épreuve, Allah Azzawajal a donné à Satan le pouvoir d'influencer leur cœur. Quels que soient les efforts que vous déployez, vous ne parviendrez pas à vous débarrasser complètement des murmures sataniques. Par conséquent, vous ne devriez pas vous inquiéter des chuchotements sataniques et continuer à faire la prière. Il ne faut pas renoncer à manger à cause des mouches. Satan, informé de l'emplacement du trésor, récit, une personne enterra sa richesse quelque part et l'oubliait. Il vint à la cour de l'imam Azam Abu Hanifa Rahmatullahi Alayh et exposa son problème. L'imam Azam Rahmatullahi Alayh conseilla « Continue à accomplir des prières surérogatoires, nafle toute la nuit et tu te souviendras de l'endroit où tu as enterré le trésor. » La personne commença à faire la prière. Après avoir fait quelques unités de prière, elle se souvint de l'endroit où elle avait enterré le trésor et mit fin à la prière surérogatoire. Puis, venant à la cour de l'imam Azam Rahmatullahi Alayh, elle raconta toute l'histoire. L'imam Azam Rahmatullahi Alayh commenta « Je savais que Satan ne te laisserait pas faire la prière surérogatoire toute la nuit et qu'il te ferait te souvenir de l'endroit où tu avais enterré tes richesses afin que tu renonces à faire la prière. » Ô dévot du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ce récit montre que la personne qui accomplit la prière nafl avec humilité et concentration pour chercher l'agrément d'Allah Azzawajal en suivant le conseil de l'imam Azam résolut son problème. N'oubliez pas, lorsque vous récitez une litanie ou une invocation pour l'accomplissement d'une tâche matérielle, vous devez également faire l'intention de la récompense. Par exemple, lorsque vous voyagez avec un madani kafila de Dawat-e-Islami ou que vous récitez une litanie ou une invocation pour l'acquisition d'une bénédiction dans la subsistance, la guérison d'une maladie, le paiement d'une dette, la naissance d'un enfant ou pour trouver un partenaire de mariage convenable, etc. Assurez-vous que vous avez l'intention de chercher l'agrément d'Allah Azzawajal. Si Allah Azzawajal le veut, votre objectif sera atteint. De même, lorsque vous accomplissez la prière de Hajja, etc., vous devez avoir l'intention d'obtenir la récompense. Que faire si on oublie le nombre d'unités dans la prière? Il est indiqué dans Bahar et Shariat. Si une personne a un doute sur le nombre d'unités qu'elle a accompli, par exemple si elle doute d'avoir accompli 3 ou 4 unités, et que cela s'est produit pour la première fois après qu'elle ait atteint la puberté, elle doit interrompre la prière en accomplissant le salam ou en faisant quelque chose qui est contraire à la prière. Ou bien, elle doit faire la prière selon sa forte présomption, mais elle doit de toute façon refaire cette prière. La simple intention de rompre la prière n'est pas suffisante, c'est-à-dire qu'elle doit accomplir une action invalidant la prière. Si cela ne s'est pas produit pour la première fois, mais qu'elle a déjà eu des doutes au cours de sa vie sur le nombre d'unités, elle doit agir en fonction de sa forte présomption. S'il n'y a pas de forte présomption, elle doit considérer que le plus petit nombre d'unités a été accompli. Par exemple, si elle a des doutes sur 3 ou 4 unités, elle doit considérer qu'elle accomplit 3 unités. Si elle a un doute sur 2 ou 3 unités, elle doit considérer qu'elle en accomplit 2, et ainsi de suite. Elle doit accomplir la qada dans la troisième et la quatrième unité, car la troisième unité peut éventuellement être la quatrième. Après avoir accompli la quatrième unité, elle doit accomplir le sajda as-saw dans la qada et faire le salam. Si elle a de fortes présomptions, il n'est pas nécessaire d'accomplir le sajda as-saw. Cependant, si elle fait une pause en pensant aussi longtemps que Subhanallah peut être récité 3 fois, le sajda as-saw deviendra wajib. Si un adorateur a un doute sur le nombre d'unités après avoir terminé la prière, il n'en sera pas tenu compte. Cependant, après la prière, s'il est convaincu qu'il a manqué un acte obligatoire, mais qu'il ne sait pas avec certitude quel acte il a manqué, il est obligatoire de refaire la prière. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad. Il utilisait Internet à mauvais escient. Chers frères en islam. Afin de développer une passion pour l'apprentissage des règles sur les ablutions, le ghusl et la prière, d'accroître la crainte d'Allah Azzawajal dans votre cœur, de vous débarrasser des péchés et de développer l'état d'esprit de marcher sur le chemin vers le paradis, restez affilié au Madani environnement de Dawate Islami, le Madani mouvement des dévots du bien-aimé, prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Écoutez un Madani récit à des fins de persuasion. Un jeune homme du quartier d'Orangi Town, à Karachi, avait l'habitude de commettre des péchés jour et nuit. Il jouait au billard, au cricket, etc. Regardait des films et des séries avec ses mauvais amis et regardait des films vulgaires sur son ordinateur. Environ 4 ou 5 ans avant la rédaction de cet article, il utilisait l'Internet et naviguait sur différents sites. Soudain, un prédicateur prononçant un discours apparut à l'écran. Il voulait changer de fenêtre, mais c'était comme si la manière dont le prédicateur le captivait. Il commença à écouter le discours. Le prédicateur incitait le public à craindre Allah Azzawajal. Pendant le discours, le jeune homme se sentit coupable de ses péchés et fut impressionné par ses mots. Après avoir obtenu de plus amples informations, il apprit que le discours avait été prononcé à Sarah et Madna, près de Toll Plaza, à Karachi, lors d'un rassemblement de Dawat-e Islami inspiré par la Sunna. Par la grâce d'Allah Azzawajal, au cours de ce même rassemblement, non seulement il devint un disciple de Ghawsul Azam, rahmatullahi alayh, il rejoignit également le Madani, environnement, de Dawat-e Islami pour se protéger des péchés. Ainsi, il fut béni par le repentir. En outre, il fut également témoin des bénédictions de Dawat-e Islami. Par exemple, il vit une fois dans son rêve qu'une madrasa Tul Madinah pour adultes avait été mise en place dans la mosquée An-Nabawi et que des frères en islam avaient récité le noble Coran. Une autre fois, il rêva que le rassemblement hebdomadaire de Dawat-e Islami, inspiré par la Sunna, se tenait dans la mosquée An-Nabawi et qu'un prédicateur de Dawat-e Islami y prononçait un discours. Par la grâce d'Allah Azzawajal, il fut chargé des actes pieux au niveau de la région et eut la chance de voyager avec un Madani Qafila chaque mois pendant plus ou moins 11 mois. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad. Accomplissez la prière comme celle de celui quittant ce monde. Le dernier prophète, l'Ahdallah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, a dit: Lorsque quelqu'un d'entre vous accomplit la prière, il doit l'accomplir comme une personne s'en allant en présumant que maintenant il ne pourra plus jamais accomplir la prière. Dites adieu à tout ce qui vous appartient au moment de la prière. Commentant le hadith béni ci-dessus, Sayyiduna Imam Muhammad al-Ghazali, rahmatullahi alayh, a déclaré, en d'autres termes, faites la prière comme la personne qui se dirige vers son Seigneur en laissant son moi inférieur, en s'éloignant de ses désirs et en disant adieu à sa vie. Sayyiduna Bakr bin Abdullah al-Muzan, rahmatullahi alayh, a déclaré, si tu veux tirer profit de ta prière, tu dois te dire ces mots à toi-même avant de commencer la prière. Peut-être que je ne pourrai plus jamais faire de prière après celle-ci. C'est la dernière prière de ma vie. Au moment de la prière, souvenez-vous de la mort et adoptez l'état d'esprit suivant. C'est la dernière prière de ma vie. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, a mis en garde: N'oubliez pas la mort dans votre prière, car lorsqu'une personne se souvient de la mort pendant sa prière, elle fera certainement la prière d'une manière excellente. Faites la prière comme la personne qui n'a aucun espoir de pouvoir faire une autre prière.